parce qu'en une journée, on ne peut pas célébrer toutes celles et tous ceux qui ont fait avancer les droits des femmes vers l'égalité dans le travail, le droit de vote pour les femmes dans le monde, l'utilisation de l'image des femmes pour vendre du shampoing, une cuisinière ou une voiture. Nous nous retrouverons encore cette année et tous les mois dans notre émission « Il n'y a pas que le 8 mars ».
Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Joël.
Salut.
Michel.
Bonjour.
Et Natacha.
Bonjour Élodie.
Alors qu'on a toutes et tous eu très très peur en juin 2024, alors que l'on vit, qu'on observe cette poussée de l'extrême droite, alors qu'on sait qu'il est minuit moins 5 et que non seulement l'extrême droite bat des records électoraux, mais aussi que ses idées infusent les cerveaux, il était nécessaire de prendre le temps d'en discuter dans cette émission. Quelques questions en vrac abordées aujourd'hui. Que fait l'extrême droite pour les droits des femmes? Et d'ailleurs, peut-on être féministe et d'extrême droite? Et comment on réfléchit à tout ça? Joël, d'ailleurs, tu as expérimenté ça de manière très réaliste il y a quelques années.
Ouais, c'est vrai. C'était quand je faisais la première série d'émissions. C'était en 2018. J'entends parler d'un groupe musical féministe qui s'installe dans un village de l'Hérault. Il est présenté comme un groupe de jeunes femmes qui animent la région. C'était super sympa. Et j'écoute. Et puis là, interloquée, choquée, déboussolée, je découvre le féminisme d'extrême droite, le choc des cultures, des idées, des valeurs. Incroyable. Aujourd'hui, ce mot de féministe a le vent en poupe et c'est plutôt bien. Il semble important ici de redéfinir nos valeurs communes, celles qui nous rassemblent. Dans le générique de notre émission, il n'y a pas que le 8 mars que nous venons de passer, la phrase qui fait toute la différence entre le féminisme et ce qu'on appelle le féminationalisme, c'est que nous considérons que toutes les femmes ont des droits ici et ailleurs. Le terme féminisme de droite sonne comme un oxymore, deux idées contradictoires, écrit Magali Della Souda, qui est l'auteur du livre Les nouvelles femmes de droite.
Et donc, on va reparler tout ça dans l'émission.
Mais Marine, t'as fait la même connerie que lui. Penser que le blanc ne se mélange pas à autrui. Marine, on ne sera jamais copine parce que je suis une métisse et que je traîne avec Ali. Marine, plus je te déteste et mieux je vais. Et plus je proteste et moins nous payons les frais. Donc j'emmerde.
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 J'emmerde. Qui?
Qui?
Moi j'emmerde.
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 J'emmerde. Qui?
Qui?
Moi j'emmerde.
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 J'emmerde. Qui?
Charlène Calderaro est doctorante, enseignante au Centre en études de genre à l'Université de Lausanne. Elle vient de contribuer à l'ouvrage coordonné par le sociologue Hugo Paletta, « Extrême droite, la résistible ascension » paru aux éditions La Boétie. Son chapitre s'appelle « Quand l'extrême droite s'approprie le féminisme ». On a pu échanger avec elle pour l'émission. Tout d'abord, elle revient sur ce concept de fémo-nationalisme créé par la sociologue Sarah Faris et comment l'extrême droite s'en empare.
La notion de fémonationalisme, qui, comme vous l'avez dit, a été créée par Sarah Faris, elle fait référence de manière résumée à l'utilisation des rhétoriques féministes ou des défenses des droits des femmes à des fins nationalistes, racistes ou xénophobes. Ce qu'on dit peu sur la conceptualisation de Faris, c'est qu'en fait, il y a un ensemble d'acteurs qui peuvent être associés ou qui peuvent se retrouver en fait dans l'utilisation de cette rhétorique et que l'extrême droite n'en a pas forcément toujours le monopole, même si dans le contexte actuel de montée des droites extrêmes, On a beaucoup utilisé le terme de fémonationalisme à raison pour justement qualifier l'utilisation de ces idées féministes et de défense des droits des femmes par les personnalités politiques et les partis politiques, mouvements d'extrême droite, pour justifier un agenda nationaliste et raciste.
Comment ça se traduit concrètement l'utilisation de ce concept ?
En fait, on pourrait dessiner deux manières dont l'extrême droite s'empare des idées féministes. La première, c'est si on se concentre sur les partis politiques, on voit qu'il y a une utilisation plutôt discursive en fait des idées féministes d'égalité femmes-hommes. Et là, on pense directement au Rassemblement national où on a vu une nouvelle tendance depuis que Marine Le Pen est arrivée à la tête du parti, donc en 2012. où la stratégie de normalisation qu'on a souvent appelée dans les médias la dédiabolisation, mais les chercheurs et chercheuses sur ce sujet parlent plutôt de normalisation, eh bien, elle a vraiment consisté à mettre en avant la question des femmes. Et donc, on voit, par exemple, que Marine Le Pen a, dès 2012, mis en avant son identité de femme, le fait que, en quelque sorte, une femme avait sa place en politique, à la tête d'un parti. Enfin, en plus, elle a mis en avant son statut de femme divorcée, il me semble. Donc, il y avait vraiment quelque chose qui semblait rompre avec une forme de conservatisme assez fort au sein du Rassemblement national ou du Front national de Jean-Marie Le Pen, par exemple. Donc, il y a déjà ce côté-là discursif dont les partis, enfin, avec lesquels les partis d'extrême droite se présentent comme défenseurs des femmes, avec la dimension sécuritaire où on met l'accent sur le fait que l'immigration cause des problèmes de sécurité en premier lieu pour les femmes, et on retrouve donc ce qu'on appelle une racialisation du sexisme, ce processus par lequel on associe la violence sexiste et sexuelle aux autres, aux migrants, aux personnes d'origine, enfin à descendance migratoire. Et donc, il y a ces aspects-là, en fait, de partis politiques qui mettent en avant l'immigration comme une cause des violences.
On entend donc que les partis politiques, et attention, on parle de l'extrême droite, mais pas que, utilisent des enjeux féministes, ici la défense des femmes face à la menace des hommes venus de l'étranger, hein, surtout, pour mettre en place une politique sécuritaire et raciste. Vous savez, aujourd'hui, la communication se fait aussi sur les réseaux sociaux et l'extrême droite l'a bien compris. Charlène Calderaro nous présente le deuxième axe de propagation d'un discours pseudo-féministe.
La deuxième façon dont l'extrême droite, je dirais, utilise la question féministe, c'est quelque chose qu'on voit dans les mouvements sociaux d'extrême droite. Donc là, on part des partis, etc. Et on va voir du côté des mouvements grassroots qui s'organisent dans la rue ou sur les réseaux, en fait. Il y a surtout cette nouveauté avec les réseaux où on voit des collectifs militants comme le collectif Némésis qui se revendiquent féministes identitaires. Et où là, il y a quelque chose de particulier parce que l'adjectif de féministe est justement utilisé explicitement où l'objectif est mis vraiment au centre de leur mouvement avec une appropriation, enfin ce que j'ai envie d'appeler une appropriation du féminisme à l'extrême droite.
Alice Cordier, la représentante du collectif Némésis, son cheval de bataille, c'est le harcèlement de rue. Qu'est-ce qu'elles défendent, ces femmes d'ailleurs, qui se réunissent en non-mixité? Ça, c'est quand même pas commun.
Oui, exactement. On voit que non seulement elles empruntent le label féministe, mais en plus elles empruntent certains modes d'action, certains répertoires d'action qui sont propres au féminisme, et notamment, comme vous l'avez dit, la non-mixité. Alors, elles n'utilisent pas ce terme comme tel, elles ne revendiquent pas la non-mixité qui fait davantage référence, voilà, au mouvement féministe, etc. Mais elles disent quand même directement que c'est un collectif de femmes. Et elles ont mis plusieurs fois en avant sur les réseaux que les hommes n'étaient pas acceptés, qu'ils pouvaient aider, puisqu'il y a plusieurs jeunes hommes qui leur ont proposé de contribuer à leur collectif sur les réseaux. Et j'ai pu voir lors de mon observation en ligne qu'elles répondaient systématiquement qu'en fait, non, le collectif était par des femmes, pour des femmes, pour traiter de questions propres aux femmes, et que les hommes pouvaient à la limite aider pendant les mobilisations, mais sans plus. Ils pouvaient se montrer solidaires et on peut voir que souvent, les hommes se retrouvent à constituer, par exemple, une aide pour les services d'ordre, etc. Et là-dedans, on retrouve souvent des hommes qui sont eux-mêmes aussi militants nationalistes ou en tout cas, voilà, dans la galaxie d'extrême droite.
Mais alors, est-ce que ces discours ont un impact sur le vote des femmes?
Alors, on peut pas, pour l'instant, on n'a pas d'informations sur, sur par exemple ce type de collectif. Est-ce que ça a une influence sur le vote des femmes? On n'a pas de statistiques là-dessus. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que si on élargit un peu, on a en France un phénomène particulièrement intéressant au regard de l'attrait de l'extrême droite pour les femmes, c'est que le droit de, enfin les le comportement électoral des femmes s'est beaucoup plus dirigé envers l'extrême droite qu'auparavant. Historiquement, ça, il y a toujours eu un décalage de genre dans le vote pour l'extrême droite, où les hommes ont toujours voté plus que les femmes pour l'extrême droite. Et depuis 2012 en France, il y a donc la réduction de ce qu'on appelle ce fossé de genre pour le vote à l'extrême droite. Et donc, en résumé, les femmes votent autant que les hommes pour l'extrême droite aujourd'hui. Et ça ne fait que s'intensifier justement depuis 2012 à chaque élection. En tout cas, c'est vraiment une tendance qui est maintenant assez claire. Et des chercheurs, des chercheuses spécialistes du sujet, comme notamment Nona Meyer, Anya Durovitch et d'autres, ont justement expliqué ce phénomène par la stratégie qui avait été entreprise par Marine Le Pen depuis 2012 de normalisation et de normalisation genrée pour justement attirer les femmes. Et donc, ça s'est avéré assez fructueux en tout cas. Et si on revient à des collectifs comme celui dont on parlait, on n'a pas moyen de voir encore, mais je pense en tout cas que ça a la capacité d'attirer des jeunes femmes vers l'extrême droite, donc d'abord vers l'activisme d'extrême droite et très probablement vers le vote. Mais il y a aussi beaucoup de femmes qui s'engagent dans ce collectif qui sont déjà socialisées à l'extrême droite et qui de toute façon sont déjà sympathisantes, voire adhérentes de partis comme le Rassemblement National ou Reconquête d'Éric Zemmour.
La tâche est colossale pour nous, féministes de gauche, pour être brève, et d'autant plus que ce fémonationalisme est aussi présent au sein des institutions, des pouvoirs en place et parmi les intellectuels féministes médiatisés.
Le fémonationalisme, et tel que le présente et le conceptualise Sarah Faris, c'est aussi la question d'une convergence entre des acteurs qui sont opposés, qui sont traditionnellement opposés sur beaucoup de questions, qui représentent des forces politiques, des blocs différents, mais qui peuvent se retrouver à un moment donné sur une question, mais sans être subjectivement, enfin sans être tout à fait voilà, en train de former une alliance voilà, qui soit subjective, dans laquelle ils mettent vraiment un effort pour faire une alliance, mais qui, en fait, on le constate, constitue quand même une forme un axe particulier autour duquel se retrouvent ces acteurs. Et c'est la question de l'immigration ou notamment de la stigmatisation de l'islam et des musulmans qui serait hostile aux droits des femmes. Et ça, c'est justement une rhétorique ou en tout cas une représentation qui existe bien au-delà de l'extrême droite et qui s'est diffusée en fait dans plusieurs forces politiques et qui est devenue comme on peut le dire souvent, mainstream. Le dernier exemple le plus fort, je pense que c'est la loi immigration, où c'est une politique que l'extrême droite aurait volontiers mis en place. Et d'ailleurs, Marine Le Pen s'est félicitée d'une victoire idéologique, alors que, on le sait, c'est le parti d'Emmanuel Macron et le gouvernement qui l'a en quelque sorte fait voter au Parlement.
Elles se répandent aussi dans des milieux intellectuels et notamment chez intellectuels féministes qui se prétendent féministes. En France, on en a certaines. L'actualité du moment, c'est Caroline Fourest qui sort un livre. Enfin, on a Sophia Aran. Comment vous voyez ça?
Oui, effectivement, c'est important de souligner le rôle de certaines figures politiques et médiatiques féministes ou qui se revendiquent de longue date du féminisme. Bien oui, on pourrait en citer plusieurs, malheureusement. Je pense que, en fait, c'est effectivement à mettre en lien avec la tradition du féminisme universaliste qui est très ancrée en France et qui a marqué voilà, des générations de féministes. Et aujourd'hui, on a un mouvement féministe ou des mouvements féministes en France qui sont plutôt divisés sur ces questions-là, avec une adoption relativement récente de concepts comme l'intersectionnalité, où on prend en compte la question du racisme, de l'homophobie, etc. Et dans d'autres mouvements, quelque chose qui est, entre guillemets, qui pourrait être qualifié de plus conservateur aussi d'un point de vue de féministe, en fait, qui fait référence plutôt à un féminisme voilà, universaliste et dans lequel la question du racisme ou des droits LGBTQI+, n'est pas du tout centrale, voire même est parfois rejetée. On a des exemples avec même Marguerite Stern ou Dora Mouto qui étaient des féministes qui se reconnaissaient dans le courant du radical feminism, donc qui a toujours été Voilà, opposé par exemple à la question de la prostitution, du travail du sexe, ou à d'autres questions en fait qui divisaient le mouvement féministe et qui se retrouvent aujourd'hui, comme Marguerite Stern, à l'université d'été du parti Reconquête et à dire finalement ouvertement désormais sur Twitter qu'elle admire Éric Zemmour. Donc on voit effectivement ces évolutions aussi chez des figures féministes qui autrefois étaient vraiment situées plutôt à gauche, même s'il y avait des désaccords, et qui aujourd'hui se sont vraiment rapprochés de la droite et de l'extrême droite, en fait. Donc c'est effectivement un phénomène intéressant à constater et qui, je pense, est aussi spécifique au contexte français. Mais après tout, on voit aussi au Royaume-Uni des féministes très transphobes qui rejoignent plutôt des politiques conservatrices.
Merci à Charlène Calderaro, doctorante et enseignante au Centre d'études de genre de l'Université de Lausanne. Ce qui est intéressant dans ce qu'elle explique, hein, c'est que cette idéologie d'extrême droite, elle se diffuse parfois même de manière non organisée, pas forcément très visible. On parlait, hein, tout à l'heure, Joël, de ta découverte de cette chorale pas commune sur YouTube.
Oui, il s'agit des brigandes auxquelles j'ai fait allusion tout à l'heure. Je tombais sur une vidéo sur YouTube. Alors, c'était festif, sympathique, bucolique. Il y avait cinq filles qui marchent dans la campagne en jouant de la trompette et du tambour. Super. En dessous, un commentaire, une dénommée Wendy Olive, dont la photo reprend le geste des Rosies. Vous savez, c'est une ménagère qui fait un bras d'honneur. Et elle écrivait en dessous: enfin, des personnes qui osent dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas, respect, écrit en majuscule. C'est une formule qu'on connaît, effectivement, et qui dit bien que le temps est venu de dire sans retenue tous les mots racistes et dénoncer des idées xénophobes. En fait, les brigandes, de 2015 à 2021, elles sortent 12 albums. Elles font 144 chansons qui sont accompagnées de la diffusion de plein de clips. Je vous laisse savourer quelques titres. Alors, France, notre terre, Foutez le camp, Gélucubration, Gélucubration, Errant et fugitif, Aider la France, Contre le temps là-haut, Ce geste. Alors là, ça nous fait comprendre qu'un petit salut nazi entre copains, c'est pas bien grave, mais qu'il faut faire attention aux gardiens de la pensée unique, ces empêcheurs de fasciser tranquille, disent-elles.
Écoute un peu ça, mon petit gars. Oui, ça vient de là-bas, mais crois-moi. Tip, 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 ta. Ça, c'est pas du rap. Ça vous prend les tripes et les nerfs. Ce truc-là remonte de l'enfer. Tip, 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 ta. Ah non, c'est pas du rap.
Bonjour à tous. Je me trouve ici dans la Montagne Noire, tout près du village de la Salvetta, à 1 heure de Narbonne, où se sont installés les Brigandes, ce groupe de musique parfois qualifié de hippie réactionnaire, qui cartonne sur Internet. Mais les Brigandes sont plus qu'un groupe de musique. Rassemblées autour de la figure de Joël Labruyère, elles forment avec leurs amis et leur famille un clan. Comment s'organise cette communauté? Les soupçons de sectarisme par différents médias sont-ils justifiés? Qui sont réellement les Brigandes? C'est ce que nous allons savoir maintenant.
Ouais, c'est ce que ce brave garçon dont j'ai oublié le nom nous fait connaître. Alors, ben, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est une supercherie, c'est de la manipulation. Les brigandes sont pas cinq jeunes femmes, new age, cheveux au vent et indépendantes. On croirait presque un groupe féministe quand on les voit. Non, non, les brigandes, elles sont accompagnées d'un groupe de brigands et ça, c'est bien organisé.
Et donc, quelle est la stratégie mise en œuvre par les brigandes? On a vu quand même que ce sont des textes assez durs contre le système, hein, qui sont chantés par de jolies jeunes filles.
Ouais.
Ça fait partie intégrante d'une stratégie.
Bah, c'est une stratégie parce que c'est sûr qu'entre un gros moustachu qui va chanter, je dis pas que je vais être un gros moustachu, mais un gros moustachu qui va chanter tout seul avec sa guitare et des jeunes filles qui chantent sur une musique bien, enfin, relativement bien, bien mise, il n'y a pas photo, quoi. Les gens vont plus facilement voir ça. C'est une stratégie de...
Le message passe mieux quand c'est des jeunes femmes. D'ailleurs, c'est une stratégie qui est employée par le système lui-même.
Ah bah, ça c'est clair. On n'a rien inventé, là.
Et vous êtes arrivé comme ça à produire 70 titres, je crois. 4 albums, c'est ça?
Quand j'entends de la musique, je me...
Voilà, alors là, il y a une espèce d'amalgame. Alors d'abord, Charlène en parlait tout à l'heure, bah, c'est des, on nous dit bien hein, que c'est des filles, parce que les filles, c'est plus sympa. Une stratégie qui est étudiée, qui est mise en place, qui est multiforme selon les publics visés. Là, ce qu'on a entendu tout à l'heure, bah, ça donne presque envie de pulser, hein, voilà, de danser, sympa. Puis il y a des mots qui arrivent comme ça, vibration, rap, des mots politiques, enfin bon, un gros amalgame. Derrière des clips d'extrême droite, vus plusieurs millions de fois sur YouTube, se cache en fait une communauté d'une trentaine de personnes. Le groupe recueille une certaine audience dans des organisations relevant du nationalisme identitaire. Alors, où est-ce qu'elles font des concerts? Où est-ce qu'elles faisaient des concerts? Un concert en octobre 2016 à Montpellier, lors d'une manifestation anti-migrants, qui était organisée à l'appel du groupe identitaire, la Ligue du Midi. Le même mois, les Brigandes, elles se produisaient à nouveau en concert lors de la journée de la synthèse nationale, devant notamment Jean-Marie Le Pen et Serge Ayoub, qui est un ancien skinhead, responsable de groupe identitaire.
Eh bien, merci. Il y a quand même des réactions face à ce genre de groupe, d'événements?
Alors, en septembre 2016, le conseil municipal du village de Salvetat-sur-Agout et la préfecture de l'Hérault identifient comme une secte la communauté dont font partie les Brigandes. Après, il y a plein d'articles qui dénoncent les agissements du groupe. Là, il y a le Nouvel Obs, il y a la Croix, il y a vraiment plein de gens qui s'en mêlent. Et à la suite de nombreuses plaintes, alors qui vont des menaces, de l'abus de faiblesse, de la violence, parce qu'en fait, quand on leur dit que ça va pas, ben du coup, c'est moins sympathique. À noter que ces plaintes n'ont jamais abouti. Jusqu'en 2018, ça a jamais abouti. YouTube ferme sa chaîne au groupe. Mais on peut toujours voir les groupes, on peut toujours voir les clips, je veux dire. Début septembre 21, les Brigandes annoncent qu'elles mettent fin à leur activité. Nous envisageons de nous réorganiser sous la forme d'un réseau plus dispersé et moins visible pour s'adapter au temps difficile à venir, disent-elles.
Ça sent pas bon. Hein.
Non, moins visible, mais effectivement, en 2023, sur le site Le Point, les Brigandes, désormais renommées la communauté de la rose et de l'épée, à la suite de la dissolution en 2021, les titres de cet étrange groupe de musique ne font pas dans la subtilité. La propagande pro-Poutine bat son plein. Laissez vivre la Russie. Laissez-la vivre sa vie, la féerique magie du Dieu qui l'a béni. Quel est cet homme sorti de l'hiver, chargé du destin d'un peuple fier de la France, recevez notre estime, cher Vladimir Poutine. Quand la chanson du soldat de l'OTAN, alors, il y a question d'une flotte armée jusqu'aux dents, d'une fiotte armée jusqu'aux dents, qui va casser de la bazooka. Ouais. Au service de la CIA, ce sont des membres de ce groupe qui sont invités du 19 au 21 mai 2023 au Salon du Bien-être. Demain, c'est aujourd'hui à Montpellier, au château de Flaugerne, aux côtés d'autres invités pour les moins controversés. Donc attention! Attention à toutes et attention à tous qui sont donc invités dans ces salons New Age bien-être. Ce sont des lieux qui semblent être hors de la politique, voire apolitique, où sont invités des groupes qui, eux, sont présents pour diffuser des idées d'extrême droite. C'est une stratégie de leur part. Ça ne veut pas dire que les New Age sont d'extrême droite, mais ça veut dire que tous ces trucs qui sont flottants et de bien-être, eh ben,
attention.
Attention.
Veillez à vérifier les informations avant d'aller quelque part et de suivre un groupe. Mais il faut faire quoi d'autre face à ces mouvements?
Eh ben, il faut combattre, il faut riposter. Et en fait, au bout de 7 ans, il y a des gens contre la communauté de la Rose et de l'Épée, ex-brigande, à porter ses fruits. C'est un combat qui a abouti à la condamnation au tribunal de Montpellier, puis de Nîmes, d'un de leurs fans et de leurs adeptes. Et là, que la victoire est belle, l'expression d'un témoignage que la lutte paye face aux acteurs de l'idéologie de l'extrême droite qui infuse actuellement le pays et notamment au cœur de la ruralité.
Levez de l'extrême droite. Levez de l'extrême droite. Levez de l'extrême droite. Levez de l'extrême droite. vois des abeilles qui rappliquent en piquant si t'as secoué tous les seins. Si je te dis que je connais tous les contours des ennemis, c'est que je peux t'en faire un dessin. Tu t'étales à critiquer tout ton entourage alors que t'es la moyenne des cinq. C'est con comme un facho qui rappe. En vrai, y'a pas plus indécent. Plein de projets pour moi et mes semblables. Dans la manif, on fait plus que les 100 pas. C'est pas de la danse, c'est juste qu'ils s'appellent samba. Calé dans le cortège avec tous les 100 papes. Pas de justice, pas de paix. Samba l'a crié milliers de fois. Ses yeux rouges sur peau d'ébène. La fabrique est à revoir, vu tous les défauts. Levé de l'extrême. Levé de l'extrême droit. Levé de l'extrême droit. Levé de l'extrême. Levé de l'extrême droit.
Le titre extrême d'Isa Yasuke, clin d'œil à Camille pour la recommandation. On l'a vu en début d'émission, l'extrême droite a lancé la normalisation de son idéologie par le biais de Marine Le Pen et l'axe valoriser la femme.
Et oui, pour se dire féministe, le plus pratique, c'est encore d'être une femme et d'en exploiter tous les codes populaires. On va le voir avec plusieurs exemples. L'image de la mère de famille entourée de ses enfants est récurrente chez les femmes d'extrême droite. A priori, rien de condamnable, sauf quand cela vise à s'attaquer aux homosexuels au nom de la défense de la famille traditionnelle ou à rendre présentables des idées qui ne le sont guère. La mère au foyer est mise sur un piédestal. Michelle Bachmann est l'une des égéries du Tea Party aux États-Unis et se présente volontiers comme garante de la famille naturelle, pendant que son mari dirige une clinique destinée à soigner les homosexuels.
Et une ode à la banalité, la simplicité.
Marine Le Pen s'habille comme une Française moyenne, ce n'est pas Rachida Dati. Sa simplicité est susceptible de susciter l'empathie. La personne qui la voit se dit « cette femme ne porte pas sur elle l'équivalent de 3 mois de SMIG ». En France, Marine Le Pen offre également le visage moderne d'une cadra divorcée et active. Une femme de son temps, comme le pays en compte des millions.
Et bien sûr, féminine.
Les responsables des partis d'extrême droite soignent leur look. De préférence blonde, elles jouent de leur côté sexy, avec une apparence ultra féminine. Cheveux choucroutés, maquillage épais, décolleté, mini-jupe. En Italie, par exemple, la volcanique Daniela Santanche doit sa notoriété à son sex appeal autant qu'à ses esclandres. Proche de Silvio Berlusconi, misant clairement sur sa crinière et ses décolletés plongeants, elle multiplie en vrai passionnariat les provocations publiques. Mais femme forte quand même, Sarah Palin est apparue plus d'une fois dans les médias, fusil en main et sourire aux lèvres. Manière de s'afficher en Amazon, à la fois musclée et avenante. Si Marine Le Pen ne se fait jamais photographier quand elle va à la chasse, elle a confié fréquemment, elle fréquentait un centre de tir de l'avenue Foch à Paris. L'occasion de rappeler en souriant qu'elle tire très bien et très juste. Les armes, un classique de l'extrême droite, même quand elle se féminise.
Et pour illustrer tout ça, on va regarder d'un peu plus près deux figures de l'extrême droite française.
Alors tout d'abord, Agnès Marion. Famille de droite, scolarisée dans des établissements catholiques maristes, ne cachant pas sa foi et assumant une pratique traditionnaliste intégriste. Licenciée en lettres et en histoire de l'art, mariée avec un imprimeur qui ne travaille que pour des écoles hors contrat, elle est mère de 6 enfants, dont des triplés. C'est Bruno Gollnisch qui lui demande de se présenter aux législatives en 2007 et depuis, elle s'est présentée à toutes les élections, municipales, départementales, régionales. Manque plus que les présidentielles. Signataire de la charte de la Manif pour tous, elle est élue conseillère du 7e arrondissement à Lyon. Sur le site de Robert Ménard, boulevard Voltaire, en octobre 2014, elle défend la famille et fustige le féminisme. Elle entre au conseil régional en 2015 sur la liste du Rassemblement Bleu Marine et déclare
« La famille est un rempart contre l'ultralibéralisme où tout se vend et s'achète et un rempart contre la marchandisation des corps et contre l'islamisation. Si nous perdons, le voile sera imposé à toutes les femmes, la charia remplacera la constitution, la barbarie s'installera. »
Elle déplace le droit de disposer de son corps vers le droit de protéger son corps contre les agressions sexistes des étrangers, bien entendu. Pour la campagne des élections régionales en Rhône-Alpes, elle emmène une équipe de femmes de tous âges, actives, habillées de jupes et de caouets. Faire sa campagne dans le métro et dans la rue. Elles incarnent une féminité à la française, associant l'engagement dans l'espace public et l'indépendance. En fond sonore, une chanson de Michel Sardou.
Et une autre tendance ?
Alors, à côté de personnes comme Agnès Marion, bourgeoise, rangée et élue, on trouve Thaïs Descuffon. Elle est la fille d'une famille noble de la région toulousaine, élevée dans un catholicisme axé sur les valeurs familiales et traditionnelles. Chevelure dorée, regard bleu perçant, voix posée, elle joue les coachs en séduction pour les Français de souche. Elle défend une vision binaire, risible et sexiste des genres, où les hommes sont des chasseurs assoiffés de sexe et les femmes des poules pondeuses en quête d'attention. Avec Génération Identitaire, cette jeune femme se rend aussi régulièrement aux frontières pour empêcher, faire rempart à l'entrée des migrants sur le territoire. En montagne, elle pose ses poses de vedette en tenue assortie, drapée dans un drapeau européen à la main. Elle sert de communication au mouvement.
Et puis elle a été condamnée pour injure publique.
Oui, après sa condamnation pour injure publique et la dissolution de Génération Identitaire, Thaïs Descuffon prend un grand virage politique. Elle joue désormais la trad wife, épouse traditionnelle, et vise les masculinistes, un courant originaire des États-Unis qui promeut un retour des femmes à leur rôle matrimonial traditionnel. La passionnariat identitaire a tout pour leur plaire. Elle est belle, jeune, elle a fait des études supérieures et elle cajole leur ego en leur promettant qu'ils méritent une femme docile au foyer qui s'occupera des enfants. Elle s'appuie sur ce mouvement trad wife. Les premières femmes se revendiquant comme telles apparaissent en Angleterre puis aux États-Unis dans les années 2010. Le mouvement connaît un véritable développement lors de la campagne de Donald Trump de 2016 avec le slogan « Make traditional housewife great again ». Je ne garantis pas l'accent. Hein. Le mouvement prend de l'ampleur sur les réseaux sociaux. Il semblerait que les tradwives soient de plus en plus nombreuses en Europe, aux États-Unis et même en Asie, aussi bien chez les blanches que chez les racisés.
Mais alors, c'est quoi une tradwife ?
Alors, c'est une femme au foyer qui considère le mariage et la vie domestique comme le centre de ses préoccupations. Entièrement dévouée et soumise à son mari qui travaille, elle reste principalement à la maison et son but est de s'occuper de sa famille, d'élever ses enfants et de tenir son intérieur. Elle propose des cours de cuisine, d'apprentissage du bon entretien de la maison, des conseils vestimentaires et des conseils de beauté, et encore des recommandations pour rendre leur mari heureux. L'esthétique véhiculée par leur mode de vie est une part importante du mouvement. Elles attachent un grand soin à leur esthétique vestimentaire et s'inspirent de l'apparence des pin-up des années 50, genre Marilyn. Autre tendance, des robes longues, couvrantes et sans décolleté. Une mouvance vestimentaire désignée en anglais sous le terme de modeste fashion. Pas de pantalon dans leur vestiaire. La robe et la jupe toute l'année transformeraient notre rapport au monde. Conservatrice, proche des mouvements évangélistes et de l'ultra-droite américaine, elle se considère le plus souvent comme apolitique. Certaines positions des partisans de ce mode de vie peuvent occasionnellement revêtir un caractère homophobe. Leur seul désir est de combler les désirs de leur mari, de tenir leur maison et d'élever leur marmaille. Elles sont évidemment en désaccord profond avec les combats féministes actuels.
Bon, on est dans l'action, on baisse pas les bras. Michel, Natacha Joël, comment on lutte contre l'extrême droite ?
Ben, on informe, on écrit, on manifeste, on analyse, on utilise les lois existantes. On est pugnace, puis on tient le coup, quoi. On se dit que tout le monde est capable de réfléchir. Et puis qu'on essaye de ne pas se laisser faire, quoi.
Oui, alors on analyse, on réfléchit et on écoute Natacha qui a tout compilé. Concrètement, l'extrême droite, ça donne quoi ?
Eh bien, ça donne par exemple des statistiques manipulées, répétées à l'envi sur les chaînes de télévision, de radio, sur les réseaux sociaux, pour servir les obsessions sécuritaires et xénophobes. On va prendre un exemple qui est emblématique, qui est révélateur. Le 5 décembre 2014, Marine Le Pen affirme sur LCI, au lendemain de la manifestation nationale contre les violences faites aux femmes, que 52% des viols commis à Paris étaient le fait des étrangers. Ce chiffre énorme est par la suite régulièrement repris par l'extrême droite en mode « c'est les chiffres qui le disent, c'est pas moi qui l'invente, j'y peux rien, mais allez vérifier », et ça jusqu'à la nausée. Alors nous, on a voulu décortiquer tout ça, creuser un peu le sujet pour comprendre comment émerger ce slogan dans l'espace public et montrer comment il constitue une manipulation, une vraie, au nom de la cause des femmes.
Alors d'où sort ce chiffre de 52%?
Eh bien, le 4 décembre 2014, quatre activistes du collectif d'extrême droite Némésis, et oui, encore lui, on en parlait tout à l'heure, réalisent leur première action coup de poing dans l'espace public en s'invitant à la manif parisienne contre les violences faites aux femmes, en brandissant des pancartes anti-immigration, dont une pancarte 52% de viols par des étrangers en Île-de-France. L'action est filmée et puis abondamment relayée sur les réseaux sociaux. Et ce chiffre, on l'a vu, a été répété par toute l'extrême droite, y compris par Marine Le Pen le lendemain à la télévision.
Et pourquoi ce slogan « 52% des auteurs de viols à Paris sont étrangers » est totalement faux, du coup?
Bah, il est totalement faux parce que d'abord, ce n'est pas du tout ce que dit le rapport de 2016 de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales, l'ONDRP, dont il est issu ce pourcentage. Dans le rapport de l'ONDRP, il est indiqué que 52% des mis en cause pour viol à Paris en 2013 et 2014 sont de nationalité étrangère. Donc 52% de mis en cause. C'est déjà une nuance importante. Le chiffre ne concerne pas que les auteurs de viols qui ont, enfin, ne concerne que les auteurs de viols qui ont pu être identifiés et poursuivis, les mis en cause. Et c'est tout à fait du coup malhonnête de transformer cette phrase en 52% de viols commis par des étrangers. Ensuite, comme l'ont montré plusieurs sites et journaux d'information qui ont fait un travail sérieux de vérification, le chiffre n'est par ailleurs pas représentatif du tout des viols en général. Parce que, premièrement, il ne concerne que Paris, il n'est pas généralisable à d'autres contextes. Ensuite, parce qu'il ne concerne que les seuls viols qui ont fait l'objet d'une plainte. Or, on sait, et depuis très très longtemps, qu'à peine 11 à 15% au mieux des victimes de viols portent plainte. Donc l'échantillon, il est vraiment trop réduit et il ne permet pas du tout de généraliser. Et le pourcentage, par ailleurs, ne concerne pas les cas de viols sur mineurs. Donc bref, l'ONDRP elle-même affirme dans son étude que celle-ci n'est pas représentative. D'ailleurs, au niveau national, on le sait, les statistiques officielles indiquent plutôt sur les 20 dernières années qu'environ 80% des mis en cause sont de nationalité française. Et cette proportion, elle grimpe à plus de 90% pour les viols sur mineurs. Donc on est très loin des 52%. Voilà, plus globalement, on sait aussi que les violences faites aux femmes se font d'abord dans la sphère proche, familiale, et ça aussi depuis très longtemps. Mais bon, ça n'empêche pas que ce pourcentage soit réutilisé régulièrement. Et puis, puisqu'on ne s'encombre pas de vérification et d'honnêteté, certains ne précisent même plus qu'il s'agit de Paris. Ces derniers temps, on a même vu des chiffres à 77%, tant qu'à faire. Hein. Donc voilà, tant que cela sert la rhétorique xénophobe, pourquoi s'enquiquiner avec la vérité ?
Ouais, lutter contre l'instrumentalisation de la cause des femmes par l'extrême droite, c'est effectivement, et entre autres choses, décortiquer les fausses informations qu'elle diffuse partout, à la télé, dans les journaux, tout le temps sur les réseaux sociaux aussi, tout le temps, en continu sur les réseaux sociaux, dans les médias et dans les murs et dans les rues aussi.
Et si on se focalise sur les votes et propositions de loi du Rassemblement national ?
Ah là là là, le RN et la cause des femmes, mais quelle imposture ! Et pourtant, ça semble marcher parce que le double discours pratiqué par les dirigeants du RN, on pense par exemple au cours des dernières européennes, là, le slogan « Bardella avec les femmes », ou encore à Marine Le Pen qui dernièrement a, semble-t-il, semblé se préoccuper d'endométriose, d'y défendre le droit des femmes, alors qu'il n'y avait encore pas si longtemps, elle parlait d'IVG de confort pour les avortements. Mais bon, a priori, ça a porté ses fruits, hein, on l'a vu, car les électrices sont de plus en plus nombreuses à voter pour l'extrême droite. Et pour autant, les programmes d'extrême droite ont-ils changé ? Au-delà des promesses, des beaux discours, que fait l'extrême droite pour la cause des femmes ? Pour l'historienne Mathilde Larère, les changements, s'ils existent, sont seulement cosmétiques et électoralistes. On vous conseille d'ailleurs un entretien avec Hugo Paletta dans l'émission Minuit dans le siècle, qui est très intéressant à ce sujet.
Alors, on va voir ça de plus près. Concrètement, qu'ont voté les députés d'extrême droite à l'Assemblée nationale ces dernières années, que votent les députés Rassemblement national au Parlement européen, par exemple?
Oui, on vous a préparé un petit inventaire exhaustif de prises de position récentes à l'Assemblée nationale et au Parlement européen, comme tu l'as dit, Élodie, rangées, classées par thématique et chronologiquement. Alors, pour ce qui concerne d'abord les violences faites aux femmes, en août 2018, les députés RN se sont abstenus de voter la loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes en France. Au Parlement européen, en 2021, les députés votent contre une résolution prévoyant des formations contre le harcèlement sexuel dans les institutions de l'Union européenne. En novembre 2022, à l'Assemblée nationale, les députés RN ont voté contre la proposition de loi sur l'outrage sexiste qui instaurait un durcissement de l'amende pour les auteurs de harcèlement de rue. En juin 2023, les députés européens RN ont voté contre la résolution sur MeToo et le harcèlement sexuel pour lutter contre les violences sexistes au sein des institutions de l'Union européenne. Et puis en 2023, le RN s'est abstenu lors de l'adoption de la Convention d'Istanbul par l'Union européenne sur la prévention de la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique. Alors que pourtant, ce texte consacrait des avancées très importantes.
Et côté santé des femmes, droit à l'IVG ?
Alors, côté santé des femmes, le RN a voté contre la prise en charge intégrale des soins pour le cancer du sein qui touche pourtant, et ce n'est pas anodin, 909 000 femmes en France. Au Parlement européen, en novembre 2020 et en novembre 2021 également, les élus RN se sont opposés à une résolution condamnant la Pologne. La Pologne qui, on le sait, avait interdit quasiment totalement l'avortement à ce moment-là. En 2022, les eurodéputés RN se sont abstenus sur l'introduction du droit à l'avortement dans la Charte européenne des droits fondamentaux. Et en mars 2024, le RN est le groupe parlementaire avec le plus d'élus qui se sont abstenus ou ont voté contre l'inscription de l'IVG dans la Constitution.
Du côté du pouvoir d'achat des femmes, sachant que la majorité des smicards sont des smicardes, que les temps partiels concernent avant tout les femmes, que les femmes sont les plus nombreuses parmi les bas et très bas salaires, que les retraites des femmes sont inférieures à celles des hommes.
Eh bien oui, là aussi, l'imposture continue, puisque le RN a voté contre l'augmentation du SMIC, contre l'indexation des salaires sur l'inflation, contre la gratuité des cantines et des fournitures scolaires pour les plus modestes, contre encore la revalorisation des petites retraites et contre l'augmentation des hébergements d'urgence. Fin 2021, les députés RN ne prennent pas part au vote de la loi sur l'égalité salariale, dite loi Rixin. En 2022, au Parlement européen, le RN vote contre un salaire minimum européen, sachant que cette mesure concerne en grande majorité des femmes, les plus nombreuses parmi les bas et très bas salaires, on le sait. Et en mai 2023, le RN s'est abstenu sur la directive européenne sur la transparence et l'égalité des rémunérations, dont le but était d'appliquer l'égalité de salaire entre hommes et femmes pour un travail identique ou de même valeur. Et bien sûr, bah, l'extrême droite, c'est, on le sait, dans les programmes et les prises de position, la discrimination à l'égard des résidents et résidentes étrangères qui seraient exclus aussi de l'accès aux aides sociales, à certains emplois, au logement social, etc. Donc des mesures catastrophiques pour les femmes étrangères en France et qui par ailleurs n'amélioreront pas la situation des femmes de nationalité française pour autant. Bref, on le voit à travers cet inventaire, le Rassemblement national, l'extrême droite constitue toujours une menace bien réelle pour les droits des femmes, qu'elles soient enfin, étrangères en premier lieu, mais aussi pour toutes les femmes. Et là, on s'est contenté de lister les votes des élus RN, mais on pourrait aussi continuer de noircir le tableau avec leur prise de position politique. Par exemple, régulièrement, le Rassemblement national appelle à couper les subventions des associations féministes et LGBTQIA+. Et il n'y a pas si longtemps encore, des députés RN ont pu comparer l'avortement à un génocide, des députés RN toujours ont pu réclamer l'abrogation de la PMA pour toutes, etc., etc.
Oui, à noter aussi, comme on l'a entendu plus haut, que les idées du RN et de Zemmour font leur chemin et que nos gouvernants s'en inspirent. Un petit exemple, le 7 juillet dernier, 2024, après la dissolution de l'Assemblée nationale, Gabriel Attal annonce la fin de la commission d'enquête sur les violences au cinéma.
Dans d'autres pays, l'extrême droite est au pouvoir. Elle est arrivée au pouvoir. Petit tour d'horizon de ce que ça donne sur le terrain.
Eh bien, ça donne que là où l'extrême droite avance, les droits des femmes reculent, très concrètement. En Italie, Giorgia Meloni a supprimé le RSA italien. Elle a multiplié les attaques contre le droit à l'IVG avec, par exemple, c'est une mesure quand même hallucinante, l'autorisation pour les militants anti-avortement de pénétrer dans les cliniques où on pratique l'avortement. Elle a réduit le financement de la prévention des violences faites aux femmes de 70% et en ce moment, elle s'attaque à la PMA pour les couples de femmes. En Hongrie, Viktor Orban, de son côté, lui a mis en place une politique nataliste qui défend une conception réactionnaire de la famille et prône le retour au foyer des femmes. Aide à la naissance, encourageant les familles nombreuses. Les Hongroises de moins de 30 ans qui décident d'avoir ou d'adopter un enfant ne sont par exemple plus soumises à l'impôt. Et alors un truc aussi un peu ahurissant, il y a une prime de 7000 euros pour l'achat d'une voiture de 7 places. Voilà. Bon, il s'est attaqué aussi aux études sur le genre dans les universités. Et puis, le Parlement du pays a adopté aussi une loi anti-LGBT, QIA+, en 2021. En Argentine, le président populiste Javier Milei a, entre autres faits d'armes, supprimé le ministère de l'égalité femmes-hommes.
Comme et ça, souhaite... plus de problèmes.
Bah voilà, évidemment. Et souhaite aussi abroger le droit à l'avortement. Et puis aux États-Unis, on le sait, pendant le mandat de Donald Trump...
on ne peut pas prononcer son nom.
C'est ça, c'est tellement difficile. Il a été mis fin au droit à l'avortement au niveau fédéral. Mais ce qu'on sait moins, c'est que Donald Trump, décidément, il a également annulé les aides à la contraception, il a fait reculer l'égalité salariale, il a fait promulguer une loi qui met en péril les financements des cliniques du planning familial, etc., etc.
Et d'ailleurs, le 28 septembre, c'est la journée internationale pour le droit à l'avortement.
Eh oui, il ne faut pas oublier, le 28 septembre, journée internationale sur le droit à l'avortement. Et on voit... On voit que si on pense à ce qui se passe en Afghanistan aussi, où les femmes n'ont plus le droit de sortir et de parler en public, et on voit que dans tous les pays totalitaires, les droits des femmes reculent.
Une façon de faire avancer les idées, ça serait quoi, Joël ?
On sait que faire avancer les idées, c'est ce qu'on inculte à l'école. Donc, c'est ce qu'on a essayé de faire, nous, pendant des années. Et puis, on voit que l'extrême droite, avec les intégristes, eux, ils s'en occupent de cet endroit-là. Et par exemple, dans le département, dans notre département, dans l'Ain, c'est à Châtillon-sur-Chalaronne qu'une école doit s'ouvrir. Enfin... devait ouvrir le 17 septembre, là, il y a quelques jours. Le projet, c'est l'accueil des filles, adolescentes et collégiennes et lycéennes. Le but, former des filles selon le rite de Pie V, Concile Vatican II, okay. Les amener à consacrer... Alors du coup, j'ai été voir ce que c'était. Hein. Ouais. Les amener à consacrer leur vie de femme à leur famille et à leur foi. Alors l'école qui s'appelle Pauline Marie Jaricot, le nom de cette Lyonnaise qui a consacré sa vie à la propagation de la foi, l'une des quatre œuvres pontificales missionnaires qui est présente dans 140 pays, vous dire qu'on n'est pas simplement dans un nationalisme français, et qui a pour responsable Thérèse Maddy. Thérèse Maddy, donc la responsable, je ne pensais pas que les gens seraient si peu ouverts, dit-elle aux journalistes quand on lui dit que l'école ne ouvrira pas. Les intégristes retournent les idées, les concepts. Ce seraient eux qui auraient des idées d'ouverture. Les enseignants qui travaillent depuis des années sur la laïcité et l'ouverture aux autres cultures, ce seraient des rétrogrades, des réactionnaires, enfin des gens fermés, quoi. Le journal local, ici, Le Progrès, titre ce dimanche 15 septembre 2024, l'école catholique pour filles interdite d'ouverture, point d'interrogation. La préfète aurait interdit l'ouverture en conditionnel. On ne sait pas de quel côté est vraiment Le Progrès, mais bizarre. C'est la mairie de la ville qui est bailleur et qui loue les locaux. Et une école intégriste dans des locaux communaux, pour l'instant encore, ce n'est pas possible. Depuis l'annonce de la création de cette école, dans un article de journal, du journal La Voix de l'Ain au printemps dernier, il y a eu plein de réactions. Allez voir sur les sites dédiés à, à Thérèse Madi, la directrice. C'est incroyable. Elle est à l'initiative des âmes vaillantes, un genre de scout pour petites et grandes filles. Et c'est ainsi marqué, si nous voulons sauver notre civilisation, les femmes doivent être conscientes de leur grave devoir. Chez les âmes vaillantes, nous avons le désir de former les mères chrétiennes de demain qui auront la ferme volonté de donner au monde les saints dont notre société a tant besoin.
Wow.
À lire les commentaires qui sont écrits en anglais, on voit bien que cette organisation n'est pas locale, mais qu'elle est bien internationale. De multiples réactions, prises de position des associations féministes et des organisations syndicales et politiques, des interpellations à l'Académie de Lyon, via le rectorat, à la préfète de l'Ain, à la déléguée des droits des femmes et à plein de monde. Et l'école intégriste de Châtillon n'a pas ouvert ses portes le 15 septembre 2024.
Bon, alors pour bien enfoncer le clou, si vous avez envie de vous angoisser encore un petit peu plus, moi cet été j'ai lu deux romans d'anticipation qui résonne assez actuel finalement. Alors le premier, c'est l'autrice militante et enseignante chercheuse sur le genre à l'Université Lyon 2, Wendy Delorme, qui l'a écrit. Il s'appelle « Viendra le temps du feu » aux éditions Cambourakis. En gros, dans un futur assez proche, on est dans une société totalitaire où toutes les frontières sont verrouillées et il y a un fleuve. De l'autre côté de ce fleuve, des femmes résistent. Le livre donne la parole à plusieurs personnages de part et d'autre du fleuve. Un extrait qui va peut-être vous rappeler des moments vécus. Un extrait dans une manifestation. C'est celui que tu as choisi, Joël.
Alors, dans la manifestation, la foule est cadenassée. Les branches de l'étoile que forment la grande place et les rues adjacentes ont toutes été bloquées. Des murs de boucliers transparents surélevés, maintenus par des hommes en uniforme noir et caparaçonnés, le visage recouvert d'un masque tubulaire. Une armée de hannetons ordonnés, rutilantes, qui attend en silence que la police termine d'avoir gazé la foule. Je viens d'arriver à l'entrée de la place par la plus grande avenue avec mes amis. Nous tenons une banderole, la dernière du cortège de manifestation. Mes yeux, ma gorge sont en feu. Au-dessus du brouillard, on entend des moteurs, une nuée d'hélicoptères dont les pales dissipent peu à peu la fumée. Ce ne sont pas les pompiers. Je sens monter la peur le long de mes entrailles et je m'écarte un peu plus pour mieux observer le mur de bouclier qui bloque l'avenue, juste à droite de celle que j'ai prise pour venir. Un mouvement de panique me reprend, comme une onde du centre de la plage jusqu'au bout du cortège. Quelque chose ne va pas. Nous ne devrions pas être ainsi encerclés. J'attire mes six compagnes vers la queue du cortège. Il faut partir. Je crie à l'oreille de chacune et les presse de quitter les lieux au plus vite. Personne n'a pu voir venir la première grande charge.
Viendra le temps du feu de Wendy Delorme et vous pouvez le trouver à la médiathèque Vaillant à Bourg. Et puis toujours cette thématique, on met le feu, le roman Avant de brûler de Virginie de Champlain aux éditions La Peuplade. Virginie de Champlain, c'est une autrice québécoise. Alors avant tout, signaler la langue, c'est hyper poétique. Lapsus, incisif et magnifique, c'est un régal à lire. Alors l'histoire, effondrement de notre société à cause des effets du réchauffement climatique et de la montée de l'extrême droite insensible à la cause écologique. Deux femmes, une isolée dans une cabane à la lisière de la forêt, l'autre en errance avec ses enfants, vont se rencontrer et coexister. Et nous apprendrons au travers de leurs pensées comment tout a basculé, justement, petit extrait. À peine un an après l'érection des murs, les cliniques de planification familiale s'étaient mises à disparaître. Sans faire de remous, sans grand titre ou effusion, aucune loi ne les avait officiellement interdites. Mais un matin, Farah s'était réveillée enceinte et elle n'avait pas eu de choix. À une autre époque, il y aurait eu des émeutes dans les rues, des vitres cassées, des têtes seraient tombées. Mais là, rien. Des soulèvements épars dont on n'avait parlé que dans les médias les plus underground. La plupart avaient choisi le silence en échange de la sécurité des murs. Le reste avait été muselé assez rapidement. Les fauteuses et fauteurs de troubles avaient disparu. Farah faisait partie de la catégorie des immobiles, des figés, des endormis. Elle ne savait pas où commencer, sur quel toit crier. Elle n'aurait pas su quoi crier, en fait. quoi crier pour déranger, mais rester en vie. Elle se disait qu'il était peut-être trop tard pour cela. Il aurait fallu se lever de la balançoire il y a longtemps. Attraper une torche enflammée au lieu d'écrire des rapports. Monter aux barricades, refuser qu'on ne l'écoute pas. Elle aurait pu être la première ligne de défense, mais elle avait échoué. Farah se demandait quelle serait la prochaine étape, la prochaine pierre pour édifier ce nouvel ordre du monde. Elle avait lu Margaret Atwood et depuis quelques années, elle observait un rire jaune coincé dans la gorge, la réalité se lever dans la silhouette terrifiante de la fiction. Farah, dans l'averse, se sentait claustrophobe dans son corps surpeuplé. Les murs se rapprochaient dangereusement et tout d'elle refusait de rester prise. Et en fin de roman, ce haïku.
Avant de partir, nous écrirons des guides de révolution, des cartes pour ne plus qu'on nous perde, et puis nous brûlerons tout pour mieux rebâtir.
Merci à vous, Joël, Michel et Natacha, pour cette émission puissante et encore très, très riche. Merci à Charlène Calderaro pour son éclairage. Merci à la technique et on se retrouve le mois prochain.
Au revoir.
Au revoir.
Ok, on va faire un show très important, c'est vraiment d'actualité. Ça concerne tout le monde. En ce moment même, ça part des champignons.
Sur mon plancher, il y a cette tache qui s'agrandit. Ça fait dégueulasse. Les champignons, c'est comme... Je ne sais plus quoi faire.